On se trouvait dans l'année 1428, c'est-à-dire à une époque où tous les désastres semblaient s'être réunis pour désoler la France. La guerre, les maladies, la famine, le froid avaient tour à tour décimé la population et ruiné le pays. Nos voyageurs durent éviter les villes qui tenaient leurs portes fermées et traverser des campagnes couvertes de neige où ils trouvaient la plupart des villages abandonnés. Les difficultés se multipliaient à chaque pas et retardaient sans cesse leur marche. Il fallait éviter les troupes d'Anglais ou de Bourguignons qui parcouraient les campagnes pour piller ce qui restait à prendre, les brigands qui s'embusquaient au carrefour des routes pour dépouiller les voyageurs, les bandes de loups qui venaient jusqu'aux ouvrages avancer les villes, attaquer les sentinelles. Heureux quand ils rencontraient le soir quelques masures où ils pouvaient allumer du feu et trouver un abri. Mais il fallait, pour cela, s'écarter des routes et s'enfoncer au plus profond des ravines et des fourrés. Partout ailleurs, les habitants gardaient leurs portes fermées, n'osant ni sortir, ni parler, ni allumer le foyer dont la fumée les eût trahis. Plus de troupeaux dans les campagnes, plus d'attelage, plus même de chiens. Les maraudeurs dont ils annonçaient l'approche les avaient tués. Rémy et son guide continuèrent cependant leur route avec courage, souffrant sans se plaindre le froid, les fatigues et la faim. À chaque épreuve, le jeune garçon posait ses espérances et le moine ses préoccupations scientifiques. Tout lui devenait occasion d'enseignement ou d'étude. Si les vivres faisaient défaut, il parlait longuement de la propriété malfaisante de la plupart des mets et des avantages de la diète. Le froid sévissait-il avec plus de rigueur? Il se réjouissait tout haut de pouvoir expérimenter ses effets encore mal étudiés. Et si la fatigue roidissait leurs membres, il expliquait comment cela avait lieu et il donnait au jeune garçon une leçon d'anatomie d'après le livre de Chauliac. Un soir, ils arrivèrent au hameau de La Roche, récemment brûlé par une troupe de soldats. Tous les habitants s'étaient réfugiés dans l'église qui restait seule debout et qui était encombrée des meubles grossiers arrachés à l'incendie. Quelques chèvres s'y trouvaient parquées. Le père Cyril et son protégé y cherchèrent un refuge pour la nuit. Les 8 ou 10 familles qui s'y étaient retirées se tenaient groupées autour de plusieurs feux allumés sur les dalles, et la fumée, qui n'avait d'autre issue que les fenêtres, formait une atmosphère épaisse à travers laquelle on pouvait à peine s'apercevoir. Cependant, en reconnaissant la robe du père Cyril, on resserra le cercle pour faire place aux nouveaux venus. Le moine s'étonna de ne voir que des femmes et des enfants. Mais on lui apprit que les hommes étaient sortis avec les charrues auxquelles ils s'attelaient, à défaut de bœufs, pour labourer de nuit, car tels étaient les désordres de ce malheureux temps qui n'osait paraître de jour dans les champs qu'ils cultivaient. Rien ne pouvait du reste donner idée du dénuement de ces pauvres gens. Les femmes étaient vêtues de peaux non tannées et de quelques lambeaux d'étoffe dont la pluie et le soleil avaient fait disparaître la couleur. Leurs enfants, de grossiers tissus de paille tressés. Cependant, elles offrirent aux deux voyageurs de partager leur chétif repas. C'était un peu de lait de chèvre et quelques racines cuites sous la cendre. Elles s'excusèrent de ne pouvoir offrir de viande, leurs bœufs et leurs porcs ayant été enlevés par les soudards qui avaient brûlé le hameau. Mais le frère Cyril déclara que, selon Galien, le bœuf occasionnait des obstructions, tandis que la chair de porc engendrait la mélancolie. Et il commença une dissertation entrecoupée de grec et de latin pour prouver que toutes les maladies venant de la réfaction ou de la superfluité des humeurs, la nourriture végétale était la plus propre à entretenir celle-ci dans un juste équilibre, et par suite la seule qui convainc véritablement à l'homme. Après avoir ainsi assaisonné d'aphorismes la frugalité du repas, Il allait se jeter avec Rémy sur une litière de feuilles étendue le long du mur, lorsque des pas de chevaux retentirent devant le porche. Les femmes, effrayées, se levèrent, craignant que ce ne fût encore quelque troupe d'aventuriers. Mais les cavaliers qui venaient de mettre pied à terre n'étaient qu'au nombre de cinq, et celui qui marchait à leur tête entra en souhaitant la paix de Dieu aux femmes accourues vers l'entrée. Il s'avança ensuite vers le chœur, s'agenouilla dévotement et se mit à prier. Rémy, qui s'était trouvé sur son passage, n'avait pu retenir un geste de surprise qu'il renouvela en le voyant se relever. « Connaîtrais-tu ce jeune homme ?» demanda le père Cyril, qui avait remarqué son mouvement. « Mais que Dieu m'éclaire si je suis le jouet de quelque illusion !» répondit le jeune garçon. « Mais il me rappelle trait pour trait la paysanne qui m'accueillit il y a un an à Dorémy. « Qui parle de Dorémy ?» s'écria l'étranger en se retournant vivement. Et ses yeux ayant rencontré le pupille de Cyril, ajouta « Mais sur mon salut, c'est le chevrier que ceux de Marais voulaient tuer. Ah, si je ne me suis pas trompé, s'écria Rémy, vous êtes bien Jean Romé. Si bien que voici mon frère Pierre, dit la paysanne, en montrant un jeune soldat qui venait de s'approcher. Que le grand messire soit loué de mettre sur mon chemin un visage connu et qui me rappelle mon pauvre village. Dieu nous sauve, mais et depuis quand les filles des champs voyagent-elles en habit de cavalier et l'épée au côté ? Demanda le frère Cyril avec surprise. Oh, c'est en effet chose peu ordinaire, mon révérend, répliqua la paysanne avec modestie. Mais la nécessité des temps est une dure loi. Et où allez-vous ? Reprit le moine. Vers le roi de France, mon père, pour remplir une mission. Frère Cyril allait continuer ses questions lorsqu'un des cavaliers qui accompagnait la jeune fille et qui, par son âge aussi bien que par son costume, semblait supérieur aux autres, s'approcha. « Montrez plus de prudence, Jeanne, dit-il vivement. C'est trop déjà qu'on vous ait reconnu. Et si vous racontez à tout venant vos projets, la route ne peut manquer de nous être fermée. » « N'ayez point de soucis, messire Jean de Metz, répondit la jeune fille avec calme. Ceux-ci peuvent être regardés comme bons Français. Priez-les alors d'oublier votre rencontre et ce que vous avez pu leur dire, car du secret dépend la réussite. »« La réussite ne dépend que du grand messire, reprit Jeanne doucement. Mais vous serez satisfait, car je m'assure que le révérend et le jeune garçon sauront se taire. » Rémy et le moine protestèrent de leur discrétion. « J'y compte, brave Jean, reprit la paysanne, et surtout j'espère que vous vous souviendrez de moi dans vos prières du soir et du matin, car tout vient de Dieu et de nos saints patrons. » À ces mots, elle se signa en saluant les deux voyageurs et suivit messire Jean de Metz près du porche où les chevaux avaient été attachés. Elle attendit quelque temps le retour de plusieurs compagnons qui étaient allés à la rencontre de vivres. Ils arrivèrent enfin et à la lueur du feu qui ne tardèrent pas à allumer, frère Cyril reconnut parmi eux Exaudinos. Il attira vivement Rémy dans la partie la plus obscure de l'église en lui recommandant de ne point se laisser voir par l'archer qui, après la scène du couvent, ne pouvait manquer de deviner le motif de leur voyage. Et afin de mieux se cacher tous deux, ils se couchèrent sur les feuilles. Le repas achevé, Jeanne et ses compagnons s'étendirent également sur un petit peu de paille près du bénitier. Exaudinos et un autre cavalier qui portait le costume de messager du roi restèrent seuls éveillés. Après avoir fait entrer les chevaux dans l'église pour les mettre à l'abri des loups, dont on entendait les hurlements dans la nuit, ils s'avancèrent vers le chœur et s'assirent près du dernier feu qui jeta encore quelques lueurs. qui se trouvait ainsi à quelques pieds du frère Cyril et de son protégé. Tous deux avaient sans doute leur raison pour s'éloigner de leur compagnon, car ils parlèrent longtemps, vivement, à voix basse, et le nom de Jeanne revenait sans cesse dans cet entretien mystérieux. Ils s'interrompirent cependant tout à coup en tressaillant. « N'as-tu pas entendu remuer derrière toi ?» demanda Exaudinos. « Oui, dit le messager en se retournant. « Il y a quelqu'un là-bas, sur la tilaillitière de feuilles. C'est un moine qui dort. Il est seul ?» Oui, tout seul. L'arche se rassura, reprit la conversation qui dura encore quelque temps, puis tous deux s'assoupirent autour du feu éteint. Mais avant le jour, la voix de Jeanne se fit entendre. Elle réveillait ses compagnons. « Allô, messieurs Jean de Metz, messieurs Bertrand de Poulangy, disait-elle. Il est temps de remettre le pied à l'étrier afin d'aller où Dieu nous envoie. » Les gentilshommes secouèrent un reste de sommeil et se levèrent. Après la prière, dite à haute voix par la jeune paysanne, on brida les chevaux et on les fit sortir sous le porche, où chacun se mit en selle. Le jour commençait alors à paraître, et Jeanne aperçut que le messager Exaudinos se tenait près d'elle. Elle tressaillit, comme si leur vue était subitement réveillée sans souvenir, et appelant Jean de Metz, « Savez-vous, messire, pourquoi ces deux méchants garçons se trouvent à ma droite et à ma gauche ?» demanda-t-elle. « Pourquoi serait-ce, sinon pour vous servir de conducteur ?» répliqua le gentilhomme. « Comme vous dites, reprit Jeanne, reste seulement à savoir où ils veulent me conduire. » Vers le roi, sans doute. Vous répondez à leur place, mais moi j'ai une autre idée, et puis s'ils ne veulent rien dire, je parlerai pour eux. Pour nous ? Répétèrent les deux hommes surpris. Tout à l'heure nous allons rencontrer une rivière, reprit Jeanne. Le messager et l'archer firent un mouvement. Et sur cette rivière se trouve un pont sans parapet. Ils tressaillirent. Ces deux hommes doivent prendre la bride de mon cheval, sous prétexte de le conduire. Ils devinrent pâles. Et quand nous serons au milieu, ils me pousseront au plus profond de l'eau. N'est-ce pas là ce dont vous êtes convenu pour vous débarrasser de celle dont la conduite vous expose, dites-vous, à de trop grands périls ? Exaudinos et son compagnon joignirent les mains avec épouvante. Grâce, grâce, demoiselle Jeanne, s'écrièrent-ils tremblants. « Par le ciel, si c'est la vérité, ces deux méchants doivent être branchés au premier arbre !» s'écria Bertrand de Poulangy, en faisant avancer brusquement son cheval vers l'archer et son complice. Mais Jeanne l'arrêta du geste. « Laissez, dit-elle, tous deux me prennent pour une magicienne. Mais je leur prouverai bien que mon pouvoir vient de Messire et non du démon. Pour cette fois, nous n'avons rien à craindre, car ce chrétien m'a averti de leur mauvaiseté. « Laissez-les donc tout suivre sans plus nous tourmenter, et par la volonté du vrai Dieu, ils ne nous nuiront point. » À ces mots, elle souleva la bride de son cheval et partit avec toute la troupe. Lorsqu'elle eut disparu, Rémy sortit de la niche où il s'était tenu caché et où il avait pu voir le résultat de l'avertissement donné par lui à Jeanne. Il demeura sous le porche, tandis qu'il aperçut son cheval blanc dans la nuit, puis rentra dans l'église pour réveiller le frère Cyril et se remettre en route avec lui. À mesure que nos deux voyageurs approchaient de la limite où l'autorité française s'était maintenue, le pays devenait encore plus ravagé et les faibles secours qu'ils avaient trouvés jusque-là leur manquèrent complètement. La population, en but aux attaques des deux parties, s'était lassée de relever des toits toujours incendiés, de semer des moissons toujours fauchées en herbe, et elle avait pris la fuite, si bien que tout était désert. Cyril et Sérémy étaient forcés de faire de longs détours, afin de passer par les bourgs où ils pouvaient trouver quelques ressources. Mais, outre qu'ils prolongeaient ainsi leur route, la rencontre des parties qui battaient le pays les exposait à mille dangers. Qu'ils fussent français, bourguignons ou anglais, on pouvait les regarder comme ennemis de quiconque se trouvait trop faible pour leur résister. Nos deux voyageurs furent plusieurs fois arrêtés et rançonnés autant que leur permettait leur indigence. Mais en arrivant à Tonnerre, ce fut bien autre chose. Soit feinte, soit erreur, on les prit pour des espions, et tous deux furent jetés en prison. Le moine demanda en vain à parler au gouverneur. Plusieurs jours s'écoulèrent sans qu'il pût l'obtenir. On les avait placés dans une salle basse où se trouvaient enfermés des juifs, des quenillardiers et des robeurs d'enfants, dont toute l'ambition était de se laisser oublier jusqu'à ce que le hasard leur fournit une occasion de délivrance. Celui qui couchait avec eux, selon l'usage alors établi dans les prisons où chaque lit servait pour trois prisonniers, il s'engagea d'abord à attendre, comme lui, une heureuse chance. Mais voyant qu'il ne pouvait y résigner, il leur dit enfin « Par Saint-Ladre, puisque vous avez si peu de patience, je puis vous donner le moyen d'être conduit sans plus de retard au gouverneur. Mais il faudra pour cela souffrir quelques jours de la faim et coucher sur la dure. » « Mais qu'importe, pourvu que nous puissions nous justifier, » répliqua Cyril. « Alors donc, » continua le prisonnier, « refusez dès aujourd'hui de payer le droit de geôle de 8 deniers. Vous serez rangé parmi ceux qui n'ont pour couche qu'une litière de paille. Et que vous ne serez plus d'aucun profit à notre gardien, il saura bien vous faire obtenir audience du seigneur qui gouverne. » Cyril suivit ce conseil, et ce que le vagabond avait prévu arriva. Le moine et Rémy, ne rapportant plus rien au geôlier que la peine de les garder, furent bientôt conduits au gouverneur pour être interrogés. Ils trouvèrent ce dernier assis avec d'autres gens de guerre devant une table couverte de coupes et de hanapes. C'était un homme d'environ 40 ans, un peu replet, mais tanné par le soleil et la bise. Il avait le front bas, le regard hautain, et ses lèvres minces qui indiquent l'avarice et l'insensibilité. Au moment où les deux prisonniers parurent, il tendait à son écuyer une large coupe de vermeil. « Verse ! » se criait-il, « ce sont les Juifs qui payent la benoîte liqueur. »« À condition qu'on leur en rende le prix au centuple, » fit observer un des convives. Mais de fait, c'est une honte que tout l'or de la noblesse aille enrichir cette immonde engeance, » continua un second. Leurs escarcelles sont pleines de nos promesses et cédules. Sans compter qu'ils osent nous menacer de la justice, ajouta un troisième. À qui le dites-vous, reprit le gouverneur. N'ont-ils pas écrit au roi pour que j'aie à payer ce qui leur est dû? Et vous ne nous délivrez pas de ces loups ravisseurs, messire? Le gros homme cligna des yeux. « Patience, patience, » dit-il. « On trouvera un moyen de leur faire donner quittance de toute dette, et cela sans beaucoup attendre. Et buvons toujours, vous dis-je avec courage et sans autre inquiétude pour le présent. » Il avait fait de nouveau faire remplir son verre qu'il commençait à vider lorsque le frère Cyril et Rémy s'approchèrent. Il s'arrêta à moitié de la libation. « Mais bien, qu'est-ce que c'est ? » s'écria-t-il. « D'où nous viennent ce francard et ce jeune drôle ?» Puis, comme s'il se fût tout à coup rappelé, « Ah oui, je sais, » reprit-il, « encore des espions de Bedford. Qui paient en son sans Dieu, mais qui paient en son qu'on les pende ?»« Très bien, » dit le moine résolument, « mais aucun de nous, messire, n'a mérite d'être rançonné ni pendu. » « Loin d'être des messagers de Bedford, nous sommes de vrais francs. »« Oh, tu me donnes des démentis, toi, » reprit le gouverneur en lançant au moine un regard de travers. « Sans Dieu, tu crois peut-être que ta robe me fera peur ?»« Je crois seulement qu'elle me fera respecter, » reprit Cyril avec fermeté, « car c'est la livrée d'un serviteur de Dieu. »« Par le ciel, que me chaud, que ce soit de Dieu ou du diable, » s'écria le Seigneur. « Qui es-tu? D'où viens-tu? Que cherches-tu ici ?»« Voyons, les réponses sans embâge, ou toi et ton jeune gars, je vous fais brancher à l'un des arbres de la grande place. aussi vrai que je me nomme messire de Flavie. » Rémi et le père Cyril firent un mouvement. « De Flavie ! » s'écrièrent-ils ensemble. Le gouverneur les regarda en face. « Eh bien, dit-il, le cousin de la dame de Varennes, ajouta le moine. « Et après ? » demanda Flavie, plus attentif. Le père Cyril ouvrit la bouche pour ajouter un mot, mais il ne le prononça pas. Seulement, ce regard alla comme involontairement du gouverneur à Rémi. Celui-ci avait déjà réprimé son trouble. « Mais que signifie cette surprise en entendant mon nom ? » s'écria Flavie. « Et pourquoi me parler de la dame de Varennes ? Sur mon salut, il y a ici quelques diableries. Approchez, révérend, et si vous tenez au moule de votre capuchon, répondez sans plus attendre. » Et en prononçant ces mots, le gouverneur de Tonnerre avait reposé brusquement sur la table son hanap. Cyril, qui allait répondre, tressaillit et s'arrêta tout à coup. Il venait d'apercevoir le bœuf sculpté qui formait l'anse de la tasse de vermeil. L'horoscope de Rémi lui revint aussitôt à la mémoire. Il se rappela les sinistres présages qui se rattachaient au signe du taureau et ne douta point que le danger annoncé le fût arrivé. Flavie, surpris et irrité de son silence subit, renouvela ses questions avec impatience. Mais le moine était bien décidé à ne lui donner aucune explication. Il répondit seulement qu'il se rendait en Touraine avec l'autorisation de son prieur pour une affaire de succession. Et les efforts de Flavie ne purent rien lui arracher de plus. Enfin, à bout de patience, il ordonna de faire reconduire les voyageurs en prison, afin qu'ils fussent pendus le lendemain, comme convaincus d'espionnage. Le père Cyril prit d'abord ce dernier ordre pour une menace, mais son inquiétude devint plus sérieuse lorsqu'à son retour, le geôlier les renferma dans des cachots séparés. Il voulut de nouveau parler au gouverneur. On lui répondit qu'il venait de quitter Tonnerre à la tête d'une compagnie armée avec laquelle il devait battre la campagne pendant plusieurs jours. Le geôlier ajouta seulement, par forme de parenthèse, que maître Richard, archer du sire de Flavie, avait reçu ordre de ne point oublier les prisonniers et qu'il se présenterait avec un confesseur vers le point du jour. Désormais, le doute était impossible. Le père Cyril avait cru faire acte de prudence en taisant la vérité, et ce silence l'avait perdu ainsi que Rémi. Cette pensée lui causa une sorte de vertige. Pour lui-même, il eût pu, sans trop d'émotion, accepter ce coup inattendu. Au milieu des désastres qui affligeaient la France depuis tant d'années, trop de sang avait coulé pour que l'idée d'une fin violente ne fut pas devenue familière à tous. À force de voir tomber ses voisins, on s'était accoutumé à attendre la mort pour son propre compte. Mais comment l'accepter pour celui d'un enfant qu'on avait protégé, auquel on supposait une longue et heureuse destinée ? Frère Cyril ne pouvait s'habituer à la pensée que tant d'espérances allaient être moissonnées dans leurs fleurs. Il s'indignait et se désolait tour à tour. Il priait Dieu avec ferveur ou repassait le thème calculé pour Rémi. Le taureau se montrait toujours hostile. Mais toujours aussi, Mars et la Vierge promettaient leur influence favorable. Frère Cyril flottait malgré lui entre l'espoir et la crainte, et cependant la crainte augmentait d'instant en instant. Une partie de la nuit était déjà écoulée. L'heure désignée pour le supplice approchait. Toute chance de salut paraissait perdue. Tout à coup, une lueur rougeâtre brille au dehors. Elle devient plus vive, elle grandit. Une immense clameur s'élève. C'est le feu. Ses reflets étincelants éclairent les murailles. On entend le mugissement des flammes, le craquement des charpentes. Le geôlier accourt ouvrir les portes des cachots en criant que le feu est au quartier des Juifs, placé derrière la prison. Le moine se précipite dans les corridors étroits. Il appelle Rémi. Une voix qui prononce son nom lui a répondu. Tous deux se cherchaient et tous deux se rencontrent à l'entrée du préau réservé. La porte est ouverte. Ils s'y précipitent, traversent une seconde cour, s'élancent dans la rue et courent devant eux en se tenant par la main. Mais leur course les rapproche de l'incendie. Ils sont heurtés d'abord par les malheureux qui fuient chargés de ce qu'ils ont pu dérober aux flammes, puis par les soldats du sire de Flavie qui les poursuivent et les dépouillent. Le père Cyril se rappelle alors la menace du gouverneur et comprend la cause du désastre. Mais une pluie de cendres et de charbons embrasés l'oblige à rebrousser chemin. Il trouve une ruelle solitaire, s'y précipite avec Rémi, et tous deux gagnent la campagne. Ils ne s'arrêtèrent qu'à la lisière d'un fourré épais qui leur assurait une retraite. Là, le moine haletant cria. Assez! Regarda derrière lui pour s'assurer qu'il n'était point poursuivi, puis se tourna vers Rémi. Oh, Dieu vient de faire pour nous un miracle, dit-il. Mon père, s'écria celui-ci, ému de joie. Qu'il soit béni de t'avoir sauvé, reprit le moine en se signant avec une expression d'ardente reconnaissance. Nous devons ce bonheur aux soldats qui ont mis le feu à la rue pour que l'incendie donne la quittance à leurs officiers. Du reste, le thème l'avait annoncé, Mars nous protège. Cependant, n'oublions pas que nous avons toujours contre nous le taureau. Ils se remirent en marche à travers le fourré, suivirent le serin jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé un gué, puis se dirigèrent vers la cure. Ils marchèrent pendant le reste de la nuit et pendant une partie du jour suivant. Enfin, près de Vermenton, la fatigue les força de s'arrêter. Ils frappèrent à la porte d'une maison d'assez bonne apparence, bâtie dans le bois et qu'ils prirent pour une maison de forestier. Mais la femme qui vint leur ouvrir portait le costume bourgeois. Elle regarda d'abord par un guichet grillé, demanda ce qu'on lui voulait et finit par ouvrir avec quelque hésitation. En entrant, le père Cyril et son compagnon remarquèrent un établi couvert d'outils et de fragments d'os. Mais leur hôtesse se hâta de les faire passer dans une seconde pièce, où elle leur offrit des sièges autour d'une table sur laquelle elle plaça de quoi satisfaire leur faim. Les deux voyageurs, qui tombaient d'inanition, mangèrent et burent d'abord sans parler. Lorsqu'ils furent enfin rassasiés, le père Siri adressa la parole à la femme qui s'était assise près du foyer et les regardait dîner sans rien dire. « Vous excuserez notre silence, ma fille, » dit-il avec la douce familiarité que lui permettait sa profession et son âge. « Mais la meilleure conversation pour celui qui donne l'hospitalité est le bruit du couteau et de la cuillère de ses hôtes. Dieu vous rendra ce que vous faites aujourd'hui pour de pauvres voyageurs. » La maîtresse du logis se signa en soupirant. Puisse-t-il vous entendre, mon révérend, murmura-t-elle, car nous vivons dans des temps où il faut expier durement à tous les fautes de quelques-uns. Hélas, vous avez raison, répliqua doucement le père Cyril. Pour l'heure, nous voyons le royaume livré à deux peuples et à deux princes qui n'ont d'autre occupation que de se nuire. Aussi nul ne peut-il dire quand finiront nos mains, si le critique, la Trinité elle-même, n'en prend souci. Peut-être le moment de la miséricorde est-il venu, fit observer la femme, car une nouvelle Judith vient d'arriver pour le salut du roi Charles. Une nouvelle Judith, répéta le moine étonné. Mais ne le savez-vous pas, reprit son interlocutrice. Une fille qui se disait envoyée de Dieu est arrivée à Chinon dans le mois de février, et après l'avoir fait examiner par des évêques et par l'université de Poitiers, Charles l'a mise à la tête d'un secours qui se rendait à Orléans, et elle a fait lever le siège aux Anglais. Est-ce possible? Interrompit Rémi. Si possible qu'elle est elle-même à Loches où se trouve maintenant le roi. Au nom du Christ, partons pour Loches, mon père, s'écria le jeune garçon en se levant. C'est là qu'il faut arriver. Leur hôtesse objecta les dangers de la route couverte de partis anglais, qui depuis la défaite d'Orléans ne faisaient quartier à personne. Mais le père Siri lui répondit que Dieu, qui les avait protégés depuis 3 mois, ne les abandonnerait pas. Elle voulut alors garnir de provisions la besace que portait le jeune garçon et passa dans la pièce voisine pour remplir sa bouteille de cuir. Mais comme elle se dirigeait vers le cellier, plusieurs coups furent frappés à la porte d'entrée et on l'appela par son nom. « Oh Dieu nous sauve, c'est Nicole !» s'écria-t-elle. « Oui, femme !» reprit la voix. « Ouvre vite, par le ciel, le beurre de soif est fin !» Elle courut ouvrir, et un homme, au teint bruni, mais à l'air jovial, parut sur le seuil. Il était vêtu de la robe de pèlerin et portait, suspendu au cou, une de ces petites boîtes grillées dans lesquelles on renfermait les reliques à vendre. « Jésus, Dieu, est-ce bien vous ?» reprit la femme stupéfaite. « Tu ne m'attendais pas de si tôt, » dit le nouveau venu. « Mais depuis que Jeanne la Pucelle met partout les Anglais en fuite, ceux-ci sont devenus dévots. Dès qu'ils m'apercevaient avec ma robe de pèlerin, ils accouraient pour acheter des reliques qui puissent les préserver de malencontre. Aussi ai-je tout vendu en quelques jours, et je viens renouveler ma trousse à miracle. » « Plus bas, malheureux !» interrompit la femme effrayée. « Il y a là un jeune homme et un moine. »« Oh, goddam ! Au nom de Dieu, ôtez vite cette robe !»« C'est inutile, » dit le père Cyril, qui avait tout entendu de la pièce voisine, et qui se montra à l'air sévère et courroucé. La femme recula en poussant un cri. Quant au pèlerin, après le premier mouvement de stuprise, il parut prendre son parti. Par le ciel, mon révérend, vous confessez les gens sans qu'ils s'en doutent, dit-il avec une gaieté effrontée. Tais-toi, sacrilège, s'écria le moine, dont l'indignation avait étouffé l'indulgence habituelle. Faux pèlerin, fabricant impie de reliques menteuses, peux-tu oublier les peines éternelles qui doivent punir ton imposture dans l'autre monde? Oh, « j'aime mieux me rappeler les profits qui récompensent ma peine dans celui-ci, » répliqua Nicole avec effronterie. « Par tous les diables, mon révérend, vous êtes malvenu à me reprocher de vivre de tromperie, quand l'honnêteté vous fait mourir de faim. J'ai été clerc de basoche, puis chantre de paroisse, et j'étais vêtu d'un mauvais habit de redondaille, nourri de fromage de chèvre et de pain d'orge à la paille. » J'ai voulu ouvrir à Auxerre, boutique d'épicerie, et les soudards ont pillé les marchandises qu'on m'envoyait. Et il a fallu attacher une bannière sur mon pignon. Alors, ne pouvant subsister de mon travail, je me suis décidé à subsister de mes ruses. La faute n'en est point à moi, mais à ceux qui m'y ont forcé. Et là, c'est la vérité, ajouta la femme, chez qui l'industrie du faux pèlerin éveillait évidemment des scrupules, mais qui eût voulu l'excuser aux yeux du moine. Nicole n'a point choisi son métier, et si on peut lui reprocher l'argent qu'il gagne, du moins s'est-il en gardé une part pour des œuvres pieuses. Et la preuve, ajouta le pèlerin en plongeant la main dans son escarcelle, d'où il retira quelques pièces de monnaie, c'est que je prierai le révérend de ne point m'oublier dans ses prières. Le moine repoussa l'argent. « Va des rétros !» s'écria-t-il. « Ce sont les écus du diable. Oh, je ne veux rien du trahisseur de Dieu. Va des rétros !»« Oh, vous avez été moins scrupuleux pour la victoire !» fit observer Nicole, piqué, en jetant un regard sur la besace que portait Rémi. Le père Cyril la saisit vivement. « Oh, très bien !» s'écria-t-il. « Je l'avais oublié. Vous avez raison de me le rappeler. » Quand je devrais mourir de mal faim, il ne sera point dit que j'aurai partagé le pain de l'iniquité. Reprenez votre aumône, et qu'elle reste à la charge de votre âme. Il avait vidé le bissac qu'il tordit à l'un de ses bras, puis reprenant le bâton de houx posé près de la porte, il sortit avec Rémi sans plus attendre. L'annonce des succès obtenus par cette fille inconnue qui conduisait l'armée française au nom de Dieu et de l'arrivée de la cour à Loches avait singulièrement réjoui le jeune homme. Il le fut encore bien davantage en apprenant que Jeanne la Pucelle venait de reconquérir successivement sur les Anglais Gergeaux, Maine, Beaugency, et que le roi s'avançait avec elle vers la Beauce. Son conducteur et lui changèrent aussitôt de direction. Remontant vers le nord, ils laissèrent Orléans sur leur gauche et atteignirent la lisière des bois de Neuville. Jusqu'alors, le père Cyril avait supporté les fatigues du voyage à fort de bonne volonté. Mais la route devenait de plus en plus difficile et le courage seul ne pouvait suffire pour en surmonter les difficultés. Les deux voyageurs traversaient un pays ravagé par le passage récent des Anglais qui évacuaient les villes et les châteaux où ils avaient jusqu'alors tenu garnison. Ils s'étaient retirés en ne laissant partout que solitude et ruines. Les provisions de nos voyageurs s'épuisèrent sans qu'ils puissent les renouveler. Il fallut vivre de racines et d'herbes sauvages arrachées au bord des sillons en friche. Depuis 3 jours, ils n'avaient rencontré aucun être vivant. La pluie tombait presque continuellement, sans qu'ils pussent trouver d'autre abri que des masures à demi écroulées ou des carrières abandonnées. Le père Cyril, qui avait jusqu'alors accepté toutes les peines et toutes les privations sans se plaindre, ne put y résister plus longtemps. Le 4e jour, il s'arrêta à l'entrée d'un petit taillis. Vaincu par le froid, la lassitude et la faim, et se laissa tomber lourdement sur un tronc d'arbre abattu. « Quand il s'agirait du paradis, je ne pourrais pas faire un pas de plus, » dit-il d'une voix affaiblie. « Laisse-moi ici, mon fils, et continue sans moi. »« Au nom de Dieu, mon père, encore un effort, » interrompit Rémi, « que nous puissions au moins atteindre quelques cabanes. » Allumez un peu de feu, ici vous êtes sans abri. Mon père, je vous en supplie. » Le frère Cyril ne répondit que par un murmure inintelligible. Ses paupières, engourdies par le froid, s'étaient refermées. Ses membres, que la fatigue avait appesantis, demeurèrent immobiles. Rémi continua en vain ses prières pendant quelque temps. Son compagnon s'était endormi. Saisi de frayeur, il courut vers la route en appelant à grands cris et cherchant de l'œil au milieu de la nuit qui était descendue quelques fumées qui pût lui faire espérer un prochain secours. Après avoir longtemps regardé en vain, il crut apercevoir plus loin, au bord de la route, une construction dont il ne put bien distinguer la forme, mais qui lui parut importante et élevée. Ne doutant point que ce fût une maison, il revint au frère Cyril, le souleva dans ses bras et se mit à l'entraîner avec effort vers l'abri qu'il avait entrevu. Le moine, à demi réveillé, se redressa sur ses pieds et se remit machinalement en marche. Enfin, tous deux atteignirent l'édifice dont la sombre silhouette se dessinait dans l'ombre. Rémi releva les yeux. C'étaient les fourches de justice de la sénéchaussée auquel pendait encore le cadavre du dernier supplicié. Cette espèce de désappointement abattit ce qui lui restait de courage. Après avoir de nouveau promené ses regards autour de lui, sans rien distinguer autre chose que le sombre abîme de la nuit, au milieu duquel les arbres levaient leurs bras tortueux comme de lugubres fantômes, il s'assit à côté du frère Cyril, appuya sa tête sur un pan de la robe du moine, et se laissa aller à la somnolence qu'il avait jusqu'alors combattue. Cependant, un reste d'énergie vitale luttait encore dans son cœur et lui faisait percevoir vaguement ce qui se passait. Il sentait que la pluie avait recommencé à tomber et il rabattit machinalement le capuchon sur la tête du frère Cyril. Puis il entendit les oiseaux de proie pousser leurs cris sinistres autour du gibet, puis les hurlements des loups rôdant sur la lisière des forêts. Enfin, il lui sembla qu'une ombre s'avançait vers eux. Il fit un effort pour se redresser et aperçut une vieille femme d'un aspect hideux qui s'était arrêtée en le voyant avec un geste de surprise. « Au nom de Dieu le Père et de son Fils, balbutia-t-il, qui que vous soyez, secourez-nous. Qui es-tu et que fais-tu là ? » demanda la vieille femme. Rémi lui expliqua en mots entrecoupés comment lui et son conducteur avaient été surpris par la nuit au lieu où ils se trouvaient. Il la supplia de nouveau de lui indiquer un gîte et de l'aider à y conduire son compagnon. La vieille femme, qui avait d'abord paru balancée, se décida enfin. Elle prit un des bras du père Cyril, tandis que Rémi prenait l'autre, et tous deux le conduisirent ainsi jusqu'à la colline qui bordait le taillis. Un vieux château, depuis longtemps ruiné, la dominait, et ses tours ébréchées se dessinaient en blanc sur le ciel chargé de brouillard sombre. Après leur avoir fait suivre un sentier rocailleux et franchir des débris de murailles, la vieille femme poussa enfin la porte d'une sorte de cave souterraine, conservée intacte au milieu des ruines, et dont elle avait fait son habitation. Elle quitta un instant ses hôtes et reparut bientôt avec une lampe allumée. Mais à la vue de la robe du père Cyril, que la nuit ne lui avait point permis jusqu'alors de distinguer, elle ne put réprimer un mouvement de surprise et presque d'épouvante. « Un moine ! » s'écria-t-elle. « Et même un soudard ? » dit en souriant le religieux, qui commençait à se ranimer. « Ne craignez rien, bonne femme. Nous sommes des gens de paix et nous serons doublement vous obligés si, après nous avoir accordé une place sous votre toit, vous rallumez pour nous votre foyer. » La vieille grommela quelques mots inintelligibles, prit la lampe et voulut faire entrer ses hôtes dans une seconde pièce plus reculée. Mais Rémi, qui venait de promener ses regards autour de celle où il se trouvait dans ce moment, saisit vivement la main du père Cyril et lui dit d'une voix altérée. « Dieu nous protège, voyez où nous sommes, mon père. » Le moine releva la tête et tressaillit à son tour. « Oh, si je ne me trompe, ceci est un laboratoire de sciences diaboliques, » dit-il avec une vivacité dans laquelle la peur avait évidemment moins de part que la curiosité. « Oh, sortons, mon père, sortons !» interrompit Rémi en cherchant à l'entraîner. Mais le père Cyril résista. Il partageait la croyance de son siècle dans la magie, mais bien qu'il la regardât comme directement enseignée par le démon, l'ardeur scientifique combattait dans son esprit le désir du salut et lui inspirait pour le moins autant d'intérêt que d'horreur pour le grand art des sortilèges. Lui-même avait autrefois essayé, dans le secret du laboratoire, quelques recettes magiques, et s'il n'avait point persisté, la cause en était bien moins dans son orthodoxie que dans l'insuccès des premières tentatives. La rencontre d'une femme livrée à cette damnable science réveilla donc tous ses anciens désirs. Il promena autour de lui un regard avide. L'espèce de souterrain dans lequel il se trouvait était garni de tous les objets mystérieux employés par la sorcellerie. Chaudières de différentes dimensions pour préparer les filtres, touffes de cheveux qui pouvaient se changer en pièces d'or, miroirs d'acier poli dans lesquels l'art magique vous montrait les absents, baguettes de coudrier destinées à diriger les nuées, effigie de cire ayant au cœur de longues épingles d'acier qui devaient amener la mort de celui qu'elle avait représenté, ossements humains, cordes de pendus, têtes de vipères pour les onguents qui changent votre forme. Mais ce qui frappa surtout les yeux du père Cyril fut un énorme crapaud prisonnier sous un globe de verre. Il portait sur le dos un petit manteau de taffetas indiquant qu'il avait été baptisé par un prêtre sacrilège, et sur la tête une sorte de crête brillante. L'attention curieuse du moine n'avait point échappé à la vieille, et elle l'augmenta encore en déclarant à haute voix, sous forme de menace, les différents dons que lui donnait son art. Rémi, au comble de la terreur, voulut s'élancer vers la porte d'entrée. Mais le père Cyril, dont épouvante était mêlée d'émerveillement, le retint. « Reste, s'écria-t-il, reste et signe-toi. La puissance du démon ne peut prévaloir contre le symbole de la rédemption. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, servante d'Astaroth et de Belzébuth, je t'ordonne de cesser tes menaces et de renoncer à tes maléfices. » La sorcière s'arrêta et demeura un instant immobile près de la porte. Le père Cyril ne douta pas qu'elle lui obéît malgré elle à l'exorcisme puissant qu'il venait de prononcer. Mais la vieille, qui semblait écouter, se rapprocha tout à coup et dit « Quelqu'un vient pour consulter la reine de Neuville. Tu as donc reçu l'avertissement du démon ?» demanda le moine étonné. « Ils sont plusieurs, » reprit la sorcière, qui tournait le dos à la porte. « Ils sont armés. Les retire-toi avec l'enfant et laisse-les me parler sans témoin. » Elle avait pris la lampe et s'avançait vers une des pièces voisines. Elle y fit entrer ses deux hôtes. C'était un caveau spacieux au fond duquel se trouvait un brasier encore enflammé et une litière de feuilles sèches. La reine de Neuville engagea les deux voyageurs à se réchauffer et à prendre du repos, puis se retira, refermant la porte de séparation. La terreur de Rémy n'était point dissipée. Le moine s'efforça de le calmer en lui répétant que les formules magiques pouvaient être victorieusement combattues par celles de l'exorcisme. Il s'approcha ensuite du brasier qu'il ranima et engagea le jeune garçon à s'asseoir avec lui sur le lit de feuilles. Mais les voix des nouveaux visiteurs venaient de se faire entendre dans la première pièce. Rémy s'approcha avec précaution de la porte refermée par la vieille et, appuyant son œil aux fentes que laissaient les planches disjointes, il aperçut distinctement tous les personnages de la scène qui se jouaient de l'autre côté. La reine de Neuville était debout à quelques pas, tenant d'une main la baguette de fer et l'autre appuyée sur le globe qui recouvrait le crapaud baptisé. Près de l'entrée étaient arrêtés trois hommes que le jeune garçon reconnut aussitôt à leur costume et à leur couleur pour des archers du sire de Flavie. Tous trois parlaient craintivement de loin à la sorcière. Mais enfin l'un d'eux parut s'enhardir. Faisant un pas en avant, il se trouva dans l'espace éclairé par la lampe. Ses traits, jusqu'alors cachés dans l'ombre, furent subitement illuminés, et Rémy reconnut Exaudinos. Bien qu'il parlât à la vieille femme avec son effronterie habituelle, cette effronterie était mêlée d'une inquiétude visible. Eh, « Si tu es venu pour chercher une chemise de sûreté, » disait la reine de Neuville, qui répondait évidemment à une demande précédemment faite par l'archer. « Oui, » répliqua celui-ci, dont les yeux ne pouvaient quitter le crapaud au manteau de taffetas. « Une chemise qui puisse me servir à la fois contre les mauvais coups et contre les sortilèges. « Et que veulent tes compagnons ?» reprit la sorcière. « Moi, » dit l'un des soldats qui se tenait dans l'ombre et dont l'uniforme indiquait un canequinier ou arbalétrier à cheval, « je souhaiterais un peu de cette poudre de sorcier que vous fabriquez avec un chat écorché, un crapaud, un lézard et un aspic. » « Et moi, » ajouta le troisième qui portait la lance des estradiots, « je désirais connaître les mots qu'il faut prononcer quand on veut payer refuga pecunia. » c'est-à-dire de manière à ce que l'argent donné revienne de lui-même dans votre escarcelle. « Et c'est tout ?» demanda la reine de Neuville en regardant de nouveau Exaudinos. « Est-ce pas assez ?» répliqua celui-ci avec un peu d'embarras. La sorcière frappa la grande chaudière de sa baguette de fer. « Tu as une demande plus importante à me faire, » dit-elle avec colère. « Tu viens pour me consulter de la part de ton maître. » L'archer parut stupéfait. Mais par Satan, l'a deviné! S'écria-t-il, en faisant un pas en arrière et regardant ses compagnons. Et Dieu m'est pourtant témoin que le sire de Flavie m'en a parlé pour la première fois il y a 2 heures, à l'auberge du bois. Oh, puisque tu sais tout, femme ou diablesse, je n'ai rien à te dire. Parle toujours, reprit la reine de Neuville avec autorité. Je veux voir si tu es sincère. À quoi bon mentir quand on lit jusqu'au fond de vos intentions? Reprit Richard, presque craintif. Et le sire de Flavie a véritablement entendu dire que rien n'était caché pour toi, et il m'a envoyé afin de t'adresser des questions. Voyons. D'abord, tu dois savoir que notre maître cherche depuis longtemps l'héritier de la dame de Varennes, dont il craint le retour.
Il a pu le découvrir.
C'est-à-dire que le hasard le lui a conduit il y a quelque temps et qu'il l'a laissé fuir, sans se douter de ce qu'il perdait.
Il l'a su depuis.
Lors de mon retour à Tonnerre, j'ai reconnu sans peine, sur ce qui m'a été dit des 2 prisonniers échappés, le jeune seigneur de Varennes et le moine qui lui servait de guide.
Un moine ? S'écria la reine de Neuville.
Oui, mais sur le Flavie ignore la route qu'ils ont suivie, reprit Exaudinos. Et c'est là ce qu'ils voudraient apprendre de toi.
Mais ce sont eux,
répéta la vieille femme comme si elle se parlait à elle-même.
Un moine déjà vieux et chauve, avec un jeune garçon de 16 ans, l'air hardi et portant le costume de novice.
Mais sur mon âme, c'est cela, dit l'archer de plus en plus surpris.
Et tu les cherches ?
Reprit la vieille femme. C'est-à-dire que Messire de Flavie voudrait savoir où vous les trouvez.
Et que donnera-t-il si je les lui apprends ?
Tu sais donc où ils sont ?
Si je lui livre le moine et son compagnon.
Quand cela ?
Sur le champ.
Est-ce possible ? S'écria Exaudinos. Quoi, la puissance de ton art pourrait les amener ici ?
Donne seulement les 2 pièces d'or que le sire de Flavie t'a remises,
reprit la reine de Neuville en tendant la main ridée. Oh, tu sais cela aussi, dit l'archer de plus en plus saisi, et tirant de la ceinture de son haut de chausse de cuir l'argent demandé. Eh bien, prends, et voyons si tu pourras remplir ta promesse. La vieille femme fit disparaître les pièces d'or dans son sein. Puis tournant sur elle-même, elle se mit à murmurer des paroles mystérieuses et à décrire avec sa baguette des cercles magiques. Et à mesure qu'elle parlait, le son de sa propre voix semblait exciter en elle une sorte de vertige. Elle courait autour de son réduit, frappant les chaudières sonores avec sa baguette de fer et prononçant les mots cabalistiques « Vach, vest, stest, stis, tu ». À ce cri, des hurlements sortirent des pièces voisines. Le crapaud à la tête brillante s'agita sous le globe de verre, et des couleuvres soulevèrent leur tête d'un des vases touchés par la sorcière. Exaudinos et ses compagnons, épouvantés, avaient reculé jusqu'à l'entrée. Mais tout à coup, la reine de Neuville, qui était arrivée près du caveau dans lequel le père Cyril et Rémy se trouvaient enfermés, s'écria « Bien, bien, Bisoche, ils y sont. » Mais qui cela ? Demanda l'archer, qui, au milieu de son effroi, n'avait point oublié le but de la conjuration. Pour toute réponse, la reine de Neuville ouvrit brusquement la porte du caveau, et les 3 soldats aperçurent le moine et l'enfant debout près du seuil.